Merci d'écouter Beurre FM, il est 10h.
Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on se retrouve ensemble tous les samedis 10h-11h tout sur Beurre FM, mais l'émission est enregistrée le jeudi. Je dois être transparent avec... Oui, il faut le préciser parce que beaucoup me disent « Mais comment les Juifs, ils peuvent être là le samedi ?» Mais non, 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 on enregistre le jeudi, c'est comme ça. On est tranquille. Avec Yacine Ilmi qui est là. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Voilà, chef d'entreprise dans le numérique, fondateur de l'association OSES, qui est un institut de formation qui s'adresse aux cadres religieux, notamment aux imams.
Tout à fait.
Vous avez préparé vos mots du jour, Yacine ?
Oui, professeur.
Parfait. Catherine Escrive est là. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue, journaliste et documentariste.
Voilà.
Ça fait plaisir de vous revoir. Joseph Toledano est là. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes coprésident de l'association Emouna Fraternité Aloumi. Vous êtes conseiller en développement de leadership. Petit nouveau aujourd'hui s'appelle Gabriel Goela. Bonjour.
Bonjour. Voilà. À tous.
Vous êtes pasteur de l'église adventiste du 7e jour et papa de 4 enfants.
Exactement.
Et Ismaël Mounir est avec nous. Bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Ravi d'être avec vous. Ismaël Mounir, imam conférencier, fondateur de l'Institut Amine et youtubeur.
Youtubeur, snapchatter.
Voilà, maintenant, vous êtes l'imam 2.0.
4.0, même.
C'est vrai, tout augmente, Yacine, Ismaël.
C'est dans le futur, en fait.
Hein, c'est l'imam du futur.
Certains de mes jeunes, t'es dans le turfu.
Très bien. Yacine, on commence par le mot qu'on a appris en préparant cette émission.
En discutant, on en a deux. Le premier, c'est le mot mitzvah, qui est de tradition hébraïque ou hébreu. Qui veut dire...
On peut peut-être demander, est-ce que les gens qui sont sur le plateau savent ce que ça veut dire?
Bar mitzvah, non, c'est...
Bravo.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Bon début.
Alors là, je reconnais, on va dire, mes limites. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça tout de suite.
Qu'est-ce que la bar mitzvah?
Bar mitzvah, c'est un film célèbre. Bar mitzvah, c'est quand l'enfant arrive à l'âge des obligations religieuses. Pour un garçon à 13 ans, se dit bar mitzvah. Et pour une fille à l'âge de 12 ans, se dit bat mitzvah.
Bien.
Effectivement. Et le mot mitzvah aussi, qui veut littéralement dire commandement. Donc aussi. Et là, dans le langage commun, une mitzvah signifie souvent une bonne action. Peut-être Joe pourra nous confirmer ça.
C'est juste, surtout chez les juifs d'origine arabe, qui considèrent que la bonne action fait partie de leur culture. Donc on en fait plein tous les jours.
Et comment on dit les 10 commandements alors ?
Alors, commandement est une mauvaise traduction des 10 paroles. Dans la Bible, il n'est pas question de commandement. C'est une traduction en français, mais ça s'appelle Aseret Hadibrot, les 10 paroles qui sont les 10 paroles prononcées par Dieu au Mont Sinaï lors de la révélation.
Donc, mauvaise traduction, comme souvent.
Ah non, pas du tout.
Non, c'est juste pas le mot qui est utilisé pour les fameux 10, entre guillemets, commandements qui ne s'appellent pas les 10 mitzvot, mais les 10 paroles de Dieu.
C'est-à-dire que le mot mitzvah veut bien dire commandement, mais les 10 commandements ne sont pas réellement les 10 commandements, ce sont les 10
paroles.
Paroles.
Bien. Deuxième mot, Yacine.
Le deuxième mot, effectivement, on a un invité aujourd'hui, c'est l'église adventiste protestante, qui est de tradition protestante. Et donc le mot adventisme, c'est un mouvement chrétien qui est lancé au 19e siècle dans les contextes du second grand réveil aux États-Unis. L'expression se réfère à la doctrine de la deuxième venue de Jésus-Christ, aussi appelée le retour du Christ. C'est ça, Gabriel ?
Effectivement, tu as bien résumé. L'Église adventiste fait partie de la grande famille protestante. Effectivement, dans le courant chrétien et aussi lié aux attentes, au Messie, il y a une doctrine, un enseignement qui dit que Jésus revient bientôt. Donc les adventistes ont prêché, ont parlé de ce retour qui se trouve dans les écrits.
D'ailleurs, c'est aussi valable chez les musulmans, l'imam Ismaël Mounir.
Je suis désolé, j'étais pas avec vous.
Sur le retour de Jésus.
Alors, c'est effectivement, chez une grande partie des musulmans, il y a le retour de Jésus. C'est contesté aujourd'hui par certains théologiens. Parce que en fait, il n'y a pas de texte qui est ce qu'on appelle dans le droit musulman qat'i, c'est-à-dire probant, c'est de l'interprétation. Mais une grande partie, on va dire, de l'orthodoxie musulmane considère qu'il y a le retour du Messie.
On parle aujourd'hui des relations parents-enfants et enfants-parents des deux côtés. Quelles sont les clés, selon vous, d'une relation parent-enfant harmonieuse ? Qui veut commencer ? Tiens, Catherine.
Alors moi, il me semble que c'est la liberté. La liberté de les laisser choisir, de leur donner des outils pour effectuer leur choix, mais de considérer qu'ils sont suffisamment intelligents pour arriver à devenir des adultes libres. D'ailleurs, dans l'Église catholique, je parle de ce que je connais, la liberté, c'est une valeur, un repère qui est très important pour chaque être humain. Ça évite de se sentir aliéné, par exemple, dans la pratique de sa religion. Voilà.
Et là, Catherine se tourne vers Joseph. Oui.
Pour moi, c'est la reconnaissance. Les parents ont une responsabilité d'apprendre à l'enfant à être reconnaissant. À être reconnaissant d'avoir été créé par eux, en général éduqué par eux, accompagné par eux. Mais au-delà de la reconnaissance vis-à-vis des parents, c'est la reconnaissance que le monde est créé, qu'on n'est pas né de rien, et que tout ce que nous le recevons du fait de la volonté de quelqu'un d'autre.
Pour ma part, je rejoins mes
collègues. Gabriel Goulard,
effectivement,
oui.
c'est tout à fait valable, la liberté, le respect. Effectivement, j'ajoute le respect pour ma part, dans le sens que s'il y a du respect entre les êtres humains et entre la créature et son créateur, je pense que le monde serait meilleur. Et même si c'est un rapport qui est construit sur la différence d'âge, d'expérience entre les parents et les enfants, le respect doit être là. Même si j'ai en face de moi un gamin de 3 ans, il y a des manières pour respecter cet enfant. Il ne faut pas dire que puisqu'il a 3 ans, il ne faut pas le respecter.
Oui. Ismaël Mounir.
Voilà, je suis bien connecté avec vous. Donc, la liberté, ça me paraît très important. On retrouve ce principe-là, puisque à l'époque des Arabes, dans leur société, l'enfant est une propriété. Et Dieu vient casser ce schéma social en disant que وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a décidé qu'on devait l'adorer que lui et qui a décidé que les enfants devaient faire preuve de bienfaisance vis-à-vis des parents. Et donc, l'enfant n'est pas une propriété des parents, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le façonner, le formater, donc il a sa liberté de choix, etc. Et la reconnaissance, c'est pareil, on le retrouve exactement aussi dans le Coran, Anishkurli wali walidek, soit reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tes parents, le respect, la bienveillance. Et il y a quelque chose aussi d'essentiel, on parle dans les concepts religieux de silatur rahim, c'est-à-dire l'entretien des liens de parenté. Et l'entretien des liens de parenté, on parle de rahim, c'est le mot qu'on utilise pour l'utérus. Et c'est en fait la racine qu'on utilise pour la miséricorde. C'est-à-dire que la relation parent-enfant, l'une des choses qui est essentielle, c'est cette miséricorde. Et on considère que si une personne est privée dans ses relations avec ses parents de cette miséricorde, comment va-t-il pouvoir en avoir pour le reste de l'humanité ? C'est le lieu en fait où va se forger ces relations de miséricorde. À la fois les parents vis-à-vis des enfants, et puis aussi bien sûr les enfants vis-à-vis des parents. Et je pense que dans une société, quand le socle familial est solide et qu'il y a ces liens de miséricorde, c'est tout le reste de la société qui va pouvoir en bénéficier.
Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose que vous disiez, Joseph Toledano, c'est la reconnaissance. Moi j'entends beaucoup de parents de ma génération se plaindre justement que leurs enfants sont ingrats et pas reconnaissants. Est-ce que vous trouvez que la reconnaissance, c'est une valeur d'aujourd'hui ? Et si les enfants ne sont pas reconnaissants, est-ce que c'est que finalement les parents ne leur ont pas transmis cette valeur ?
Puisque nous sommes dans une émission qui évoque la question de la relation entre parents et enfants par les religions. Je pense que les religions ne sont pas dans leur rôle si elles ne mettent pas cet objectif comme le numéro un dans la transmission à l'enfant.
Pour vous moi, mettez vraiment en objectif numéro un.
Objectif
voilà, oui.
Numéro un, que l'enfant puisse savoir qu'il n'est pas le maître du monde, que le monde est créé, que nous l'avons reçu et que lui-même a reçu la vie de ses parents. Et je pense que c'est fondamental et que c'est vécu comme ça. Et pour ce que je sais de l'islam, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très important d'avoir une reconnaissance vis-à-vis des parents. Et quand nous disons parents, nous disons tous les parents, c'est-à-dire les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et alors, je dois dire que pour le judaïsme, puisque j'ai dirigé beaucoup d'institutions éducatives, c'est considéré comme vraiment le fondement de l'apprentissage du judaïsme à l'enfant. Quand il a appris ça, il peut continuer dans la vie tout seul.
Il y a dans la vie, il y a la théorie, il y a la pratique. Hein, en pratique, ça, c'est ce qui devrait se passer, mais en théorie, mais en pratique, les enfants ne sont pas reconnaissants. Pourquoi ?
Alors, moi, qui suis une maman de 3 enfants adolescents maintenant, je me rends de plus en plus compte que ce qui donne beaucoup de force à notre témoignage, c'est la force de l'exemplarité. C'est-à-dire que on ne peut pas prôner des valeurs auprès de nos enfants, de faire de belles paroles, si ensuite, nous, dans notre propre vie, on ne les met pas en pratique. Et je pense que toutes nos figures de saints dans l'Église catholique, elles sont des figures de cohérence. Et si on les admire tant, c'est parce qu'elles ont la force de l'exemplarité. Et il me semble que si on est soi-même, alors je rêve, je suis peut-être très naïve, si on est soi-même reconnaissant, porteur de reconnaissance à l'égard de ses propres parents, de ses amis, alors peut-être nos enfants nous verront vivre et ils auront envie d'appliquer ce que l'on vit. Mais ça, c'est drôlement difficile.
Catherine, hein. Vous avez un exemple sur une figure de saint qui apporte...
qui témoignent de la reconnaissance.
Oui. Ben, beaucoup de figures de saints très très contemporains, sœur Emmanuelle par exemple, on parlait l'autre jour de l'abbé Pierre, toutes ces figures de saints très cohérents. Le pape François est lui-même d'une certaine manière un homme extrêmement cohérent. Donc je pense que c'est des figures qui nous inspirent et qu'on doit nous-mêmes inspirer par nos propres actes, à nos enfants, ce qu'on attend d'eux, finalement. Ce n'est pas à l'extérieur de nous.
Mmh. Un mot aujourd'hui qu'on emploie beaucoup, c'est la congruence.
C'est ce que je pensais, j'ai pensé à l'instant.
À Emmanuel Mounir.
Emmanuel Mounir.
Emmanuel Mounir.
Mais je vous
savez, bien, vous savez quoi, je suis passé de sœur Emmanuel, vous voyez, j'ai une association.
Non, parce que peut-être j'incarne une générosité.
Mais et c'était exactement ça, et je vous ai associé à cette générosité.
J'avoue que l'association ne me dérange pas.
Bien. Voilà. Donc, Ismaël Mounir.
Alors, par rapport à cette histoire de reconnaissance, effectivement, c'est essentiel, la reconnaissance. Quand j'entendais tout à l'heure mon ami parler de reconnaissance, il m'est venu un verset à l'esprit. Effectivement, quand on parle de la relation parent-enfant dans le Coran, il y a un verset qui est connu et qui est répété et répété, dans lequel il dit « Wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayhi ». Donc nous avons enjoint à l'homme de prendre soin de ses parents. Et regardez, tout de suite, il est dit « Sa mère l'a porté souffrance après souffrance et le sevrage pour l'allaitement, ce sera au bout de 2 ans ». Soyez reconnaissants envers Dieu et envers vos parents. Et ici même, il a été dit que la mère, elle a un degré supérieur, puisque dans l'éducation, elle va supporter 3 choses que l'homme ne va pas supporter, c'est-à-dire l'accouchement, avant cela la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Donc il y a même 3 souffrances qui sont supportées par la maman, qui ne sont pas partagées par le père, qui fait qu'on demande encore plus de reconnaissance pour la maman. Après, maintenant, je rejoins tout à fait le conflit qu'on peut établir entre les valeurs promues et les valeurs vécues. Parce que des fois, on peut dire un certain nombre de choses avec notre bouche, et en fait, dans nos vies, ça ne va pas forcément se produire. Et là, quelque part, on crée une espèce de conflit, même chez l'enfant. « Papa, tu dis ça, mais tu fais le contraire. » D'accord ?
Une forme de schizophrénie.
Exactement. Et je pense que c'est extrêmement dangereux, et il faut faire extrêmement attention, et il faut se rappeler que je pense que les enfants, ils sont plus éduqués par ce qu'ils nous voient faire que par ce qu'on dit. On a tendance à penser qu'on dit des choses aux enfants, mais en fait, je pense que les enfants sont nettement plus influencés par ce que l'on fait
que par ce qu'on dit.
Et ça, je pense que l'éducateur, il doit absolument l'intégrer, et ce qui peut justement éviter ces distorsions entre ce à quoi on appelle et ce qu'on peut mettre en place dans nos vies.
Alors, Gabriel Goléa.
Oui, vous demandiez pourquoi ça se perd. Je ne veux pas faire cela.
Alors, c'est mon sentiment. Je ne dis pas que la reconnaissance se perd. Mais c'est ce que je constate, moi. Donc,
Peut-être que, sans faire le... Disons le débat, la nostalgie de ceux qui étaient avant, ceux qui sont maintenant, vous voyez un peu le conflit des générations, parce qu'il y a toujours eu des différences entre les générations, sans rentrer dans ce type de, disons, d'antinomisme plutôt artificiel. Personnellement, je pense que la nouvelle génération a des défis nouveaux aussi. On parlait tout à l'heure de multimédia, des réseaux sociaux, etc. Chacun choisit son ami, etc. Donc c'est une manière, nos jeunes reçoivent de l'extérieur une pression qui est quand même importante. La culture des habits, tel ou tel genre, style de musique, etc. Tout cela pour juste à poser avec une discipline ou une manière de voir les choses à la maison qui sont parfois différentes.
Speak Uni jusqu'à 11h, on parle de la relation parent-enfant ce matin.
Speak Uni revient dans un instant. Speak Uni avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons de la relation parent-enfant aujourd'hui et enfant-parent, bien sûr, dans Speak Uni ce matin avec Yacine Mi qui est avec nous, le pasteur Gabriel Goléa, pasteur de l'église adventiste du 7e jour et papa de 4 enfants, Ismaël Mounir, imam, conférencier et fondateur de l'Institut Amine, Catherine Escrive, journaliste et documentariste, et puis Joseph Toledano, coprésident de l'association Emouna Fraternité Aloumi, et très investi dans le dialogue interreligieux. Alors, on parle de ces questions de rapport parent-enfant. Alors, quelque chose pour vous, Ismaël Mounir. De toute façon, rien ne remplace l'amour des parents pour les enfants et le temps qu'ils passent avec eux, même si on les gâte et surgâte.
Alors, effectivement, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de reconnaissance, moi, je pense que si on considère que nos enfants ne sont pas assez reconnaissants, c'est peut-être le miroir de quelque chose. Il y a le concept du miroir, en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils vivent avec nous. Et quelque part, des fois, je vois beaucoup les parents reprocher un certain nombre de choses aux enfants. Mais en fait, on leur reproche que nous-mêmes, on a contribué à façonner chez eux. C'est-à-dire que le consumérisme, on, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on les
regarde, dire on leur achète beaucoup. Que le matériel ne va pas compenser un manque d'amour et de temps.
Ça forge nous-mêmes dans nos consciences l'idée qu'en fait, il faut leur donner pour qu'ils soient heureux. Donc, on passe leur temps à se démener, etc. Et aussi, il y a autre chose, c'est que je pense qu'on a tendance à dévoyer un certain nombre de concept religieux. Par exemple, la reconnaissance. Moi, j'ai des parents qui viennent souvent me dire, je me suis rendu compte de ça quand je parlais avec les mamans, quand je faisais le sermon du vendredi ou les papas, qui venaient me dire insiste sur le fait que les enfants, ils doivent obéir aux parents. Alors déjà, il n'y a pas d'obéissance absolue. C'est-à-dire que si un parent, il leur donne quelque chose d'immoral, l'enfant, il n'a pas à lui obéir. Et par exemple, nous, dans notre communauté, il y a les mariages. Par exemple, un jeune maghrébin originaire du Maroc qui va vouloir se marier avec une Algérienne, et les parents ne vont pas vouloir. Ils vont venir me voir, moi, en tant qu'imam, de dire, bah, dis qu'ils doivent nous obéir. Non, mais ils n'ont pas à vous obéir là-dessus. C'est du racisme. Donc, ils n'ont pas à vous obéir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on dévoie un peu les concepts religieux. Et ça aussi, ça crée un grand désordre, même dans la tête des gens, etc. Et à mon sens, je pense que le concept de reconnaissance est un concept extrêmement noble, mais il faut qu'il reste à sa place. Il ne faut pas, sous prétexte de reconnaissance, que le parent devienne une forme de dictateur. D'accord. Et quelque part, c'est une utilisation passionnelle des concepts religieux.
Voilà, tu m'obéis au doigt et à l'œil. Alors, Joseph Toledano.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la reconnaissance n'est pas un dû. Les enfants ne doivent pas à la reconnaissance. Les parents ont une obligation d'éduquer l'enfant à la reconnaissance. Quand est-ce que le résultat est atteint? Je ne sais pas. Ça dépend effectivement des familles. Mais je dirais, pour avoir beaucoup travaillé avec des populations migrantes, juives et pas juives, j'ai réalisé que beaucoup de migrants viennent sans parents, forcément, parce que c'est les jeunes qui se déplacent. Et donc, la relation aux parents est lointaine, parfois oubliée, etc. Quand ils ont des enfants, ils n'ont pas d'exemple à donner. Et je dirais, aujourd'hui, on est dans une génération où il y a beaucoup de migrants qui ont leurs parents, et parfois même leurs grands-parents. Et donc, cette idée que ça passe beaucoup plus par l'exemple que par le discours, renforce le fait que ce n'est pas un dû. Les enfants arrivent à la reconnaissance le jour où ils veulent. Mais effectivement, que les parents aient une relation avec ça. Concernant le judaïsme, c'est un point très intéressant, puisque tout à l'heure vous avez parlé de ce que nous appelons le décalogue. Le décalogue, ce sont les 10 paroles que Dieu aurait prononcées lors de la révélation de la Torah au Mont Sinaï. 10 paroles, décalogue. La relation aux parents se trouve entre la table de droite, puisque c'est une table à deux branches, la table de droite sur laquelle il est écrit « Vous reconnaîtrez votre Dieu, vous ne jurerez pas en vain, vous n'adorerez pas d'idole, et à gauche, vous ne volerez pas, vous ne violerez pas, etc. » Toutes les relations avec les êtres humains. La relation aux parents est écrite entre les deux tables. Et on dit que la relation de l'homme à Dieu passe par la relation de l'homme à ses parents. Les parents, nous leur devons, d'ailleurs la Torah ne parle pas de respect, elle parle de donner du poids, de donner de l'importance. Effectivement, les parents ne savent pas ce que c'est qu'Internet parfois, mais les parents savent ce que c'est que la vie, savent ce qui est important. Pour un enfant, avoir l'idée que quand il a besoin de grandes orientations, de conseils, même simplement d'écoute, qu'il peut la trouver chez ses parents, pour moi, c'est une valeur religieuse importante.
Gabriel Goléa.
Comme prolongement de cette réflexion sur le décalogue, effectivement, le cinquième commandement ou la cinquième parole, « Honore ton père et ta mère », sera repris plus tard par l'apôtre Paul, un grand théologien du 1er siècle, qui est reconnu dans toutes les sensibilités religieuses. Et lui dira la même chose, voilà ce qui a été dit, et il mentionne, c'est une de ses épîtres adressées aux Éphésiens, et c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Donc c'est pas juste tu dois faire, tu dois ceci, cela, mais c'est vraiment honorer son père et sa mère, c'est une promesse exceptionnelle.
Catherine Scribe.
Oui, alors moi je parle vraiment là en tant que maman qui est éducatrice, mais je voudrais revenir à ce que disait Ismaël, hein, je me trompe pas de prénom, c'est bien ça.
J'ai
l'impression que dans
Emmanuel.
Une famille, quand on est éducateur, la première démarche c'est de reconnaître à chacun sa dimension spirituelle, que l'on soit faible ou fort, quand l'on soit parent ou enfant, on a tous cette dimension spirituelle à vivre, et peut-être dans un contexte de matérialisme très très fort, on a encore plus besoin de le sentir. Et moi, je vois aussi la dimension spirituelle, au-delà de faire grandir les enfants dans la foi par un certain nombre de rites, comme une ressource. Et il m'arrive fréquemment, notamment si on a écouté un évangile pendant la messe du dimanche, de renvoyer mes enfants ou de me renvoyer moi-même à des solutions que Jésus, par exemple, nous donne, je dis ça parce que je suis catholique, mais par exemple, pour la résolution d'un conflit, très récemment, il m'est arrivé d'en parler à mon fils et de lui dire « Ah, mais tu te souviens, Jésus, dans tel évangile, là, ce dimanche dernier, il avait dit ça pour résoudre le conflit. Est-ce que tu crois pas que ça peut t'aider ?» Alors, ça l'a un peu aidé. C'était une ressource parmi d'autres, parmi une ressource plus psychologique ou une ressource plus culturelle. Mais en tout cas, c'est un apport fondamental, cette idée du spirituel en nous, pour moi.
Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de prier avec vos enfants ? Et est-ce qu'ils acceptent de prier avec vous ?
Moi, ça m'arrive très fréquemment, puisqu'on dit que déjà deux personnes qui prient ensemble dans une maison, c'est une petite église. Donc, on prie forcément ensemble.
Oui, je confirme également.
Alors, Gabriel.
C'est un moment, comme je disais, j'ai quatre enfants. Maintenant, ils sont grands, c'est quatre filles. L'aîné est marié, elle a sa vie aussi. Et nous avons institué une sorte de tradition à la maison, notamment pour commencer le Shabbat, le vendredi soir, parce que les adventistes observent le samedi comme étant le jour du Seigneur, le jour du repos et jour sanctifié. Donc on commence cette fête hebdomadaire en famille. Et je pense que ce qui me retient et me relie aussi à mes parents, mais j'espère faire la même chose avec mes enfants, c'est justement ces moments où on prie, on chante, on lit des textes ensemble, et c'est quelque chose d'extrêmement fort.
Vous avez des rituels hebdomadaires?
Voilà, par exemple, ça c'est une occasion, mais on le fait aussi devant un repas, devant des moments autres aussi.
Oui, bien sûr, on prie
en famille,
en famille, etc. On crée une dynamique, etc. C'est avec même parfois les enfants qui sont pas concernés par la prière, parce que moi j'ai 5 enfants, ça va de 16 ans à 1 an. Même ceux qui sont pas concernés, on va dire, par la prière, le fait de voir tout le monde prier, en fait ils viennent en couche, ils font les gestes, etc. Et voilà, ça crée des moments assez chaleureux. Et ce que j'essaye de faire, moi, c'est que, après, comme on est réunis, on va parler, on peut parler d'un problème qu'il y a à la maison, ou leur raconter une petite histoire, etc. Pour que ce soit, chaleureux et agréable pour tout le monde.
Joseph Toledano.
Écoutez, puisqu'on a dit que Gabriel a 4 enfants, moi j'ai 4 enfants et 6 petits-enfants. Et je suis habitué à prier à la maison, à la synagogue. J'ai réalisé que la prière est un moment que les enfants apprennent à respecter, dès leur plus jeune âge. Et quel que soit le sentiment qui se développe par rapport à la prière par la suite, il y a soit une adhésion à la prière, soit une participation, comme a dit Ismaël, soit simplement une observation de loin. Mais le fait que les membres de la, famille prient, les autres comprennent, adhèrent à l'idée, comme, hein, pour lui c'est très très important. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de savoir que quand quelqu'un prie, c'est qu'il est en train de faire quelque chose d'important.
Catherine ?
Moi, ça me fait penser tout ce que j'entends sur ce que disait Albert Jacquard, qui est mort maintenant, mais qui était quand même un penseur important. Il parlait d'une société du lien qui pouvait être créée justement par la prière, par tout ce qui était immatériel, opposé à une société de la performance. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on montre à nos enfants quand on prie aussi. C'est qu'on est plus dans le lien avec toute personne, qu'elle soit vulnérable ou pas, handicapée ou pas handicapée, et ben elle est capable de lien. Et ça, c'est possible dans la religion, je trouve.
Alors, qu'est-ce que, selon vous, une éducation réussie, Ismaël Munir, quand on élève des enfants?
Alors, bah, c'est une vaste question qui mériterait, à mon sens, peut-être beaucoup de recul et de réflexion. Mais là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, et je parle par rapport à ce que je vois dans ma communauté, il faut faire la distinction entre le fait de formater et le fait de former.
Je pense qu'il y a un piège,
surtout quand on vit dans un pays où on est en minorité, c'est-à-dire que les musulmans sont en minorité dans un pays à majorité non musulmane, dans un pays consumériste où il y a cette tendance à la sécularisation, etc., fait que ça crée une espèce de peur, voire de repli identitaire, et on a l'impression que nos enfants, pour les préserver, en fait, il faut les mettre dans des cadres, vous voyez ce que je veux dire, dans des canevas de pensée, etc. Et je pense que on fait tout le contraire, en fait. On va faire de la religion quelque chose d'obscur, un instrument de torture. Et moi, je pense que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Tout à l'heure, Catherine parlait de faire confiance à l'enfant, à son intelligence. Moi, je pense que c'est fondamental dans l'éducation aujourd'hui. Il faut cultiver la réflexion, l'intellect, accompagner l'enfant. Et parfois, effectivement, on est dans une société, on est entouré de péchés. Moi, c'est ce que je dis à des parents musulmans. Je dis, il va falloir qu'il expérimente. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas considérer qu'on va éduquer ses enfants, des ados, et qu'on va être avec eux, H24, 7 jours sur 7, et qu'on va les empêcher de tout faire. C'est la vie, c'est l'expérience humaine. Et je dis souvent aux parents, vous aussi, vous avez péché, c'est votre expérience de vie. Mmh. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est de l'accompagnement. Établir cette relation dans laquelle il y a de la miséricorde, mais aussi effectivement il y a une hiérarchie, c'est-à-dire le respect. Tout à l'heure, quand il était évoqué l'importance du lien parental, oui, c'est un lien qui est sacré, ce lien-là, il est sacré, et remettre cette sacralité au centre de la relation, ça me paraît important.
Gabriel Goléa.
Oui, c'est important de dire que du moment où ces valeurs deviennent leurs propres valeurs, là, je pense qu'un parent est satisfait. Il a le sentiment qu'il n'a pas vécu pour rien. Formatage, tout ça, bien sûr, on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, on était nous-mêmes des enfants. Comment est-ce qu'un parent devrait s'adresser? Quelle façon? Quelle manière? Donc, les valeurs liées à la spiritualité doivent être enseigner, expliciter d'une manière, on va dire, pédagogique, avec beaucoup de dialogue. Et à ce moment-là, voir que l'enfant prend son envol, qu'il devient mature, adulte, et qu'il fasse lui-même son propre expérience, et qu'il assume cette expérience, là, je pense qu'un parent doit être rassuré.
Bien, Spicuni jusqu'à 11h. On jouera au grand quiz des religions, Yacine, puisque je vois sortir votre boîte à questions dans un instant.
Spicuni revient dans un instant. Spicuni avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ce rendez-vous où on se parle sur Beurre FM, 10h-11h le samedi, on déconstruit les préjugés ensemble avec Yacine Ilmi. qui est avec nous, le pasteur Gabriel Goléa, qui vient pour la première fois. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église adventiste du septième jour, Ismaël Mounir, qui a déjà son rond de serviette à Beurre FM, imam, conférencier et fondateur de l'Institut Amine, et youtubeur Catherine Escrive, comment également avoir son rond de serviette à Beurre FM.
Merci,
journaliste et documentariste, et puis Joseph Toledano, que c'est un plaisir d'avoir physiquement, puisqu'on vous avait déjà eu, mais au téléphone, qui est coprésident de l'association Emouna Fraternité Aloumi. On parle des relations parents-enfants. Yacine, une notion importante pour vous?
Effectivement, je crois dans tout ce qui a été dit de façon vraiment de qualité, il y a aussi la question de confiance. Donc, comment faire pour installer, parce que c'est ce que les parents aujourd'hui veulent et essayent de mettre en place, un climat de confiance au sein du foyer familial avec nos enfants, notamment dans la période la plus, on va dire, compliquée.
L'adolescence.
Mmh.
Alors, tiens, on va demander à Gabriel, vous avez un peu de retard sur la parole, Gabriel Goléa, de commencer, si vous voulez bien.
Alors, la confiance ne se dicte pas, elle se construit. Et ce qui est le plus difficile, c'est de la construire dans le temps et surtout avec les personnes qu'on aime. On a tendance à être plutôt investi à l'extérieur, qu'on veuille ou non, c'est la vie, le quotidien, la profession, les études, où on veut avancer. Quand on regarde en arrière, qu'est-ce qui reste? Nos enfants. Et là, parfois, on a loupé le coche parce qu'on n'a pas pris le temps. On arrive le soir, allez, mettez vos lits, prenez votre soupe. Enfin, je caricature un peu, légèrement.
Ça veut dire qu'on a consacré plus de temps aux autres qu'aux siens.
Ça, c'est un danger, un vrai danger, et où une gestion liée à la relation familiale est beaucoup plus importante que de s'investir dans des... C'est important d'avoir un salaire, d'avoir une vie sociale, etc. Mais ne pas oublier qu'il est important de construire cette confiance jour après jour. Et deuxième remarque, il est important de nuancer. Moi, j'ai quatre enfants, et je dis souvent, j'ai quatre enfants, ils ont été nourris tous avec la même soupe, le même petit déjeuner, mais il y a quatre enfants différents. Et les parents font souvent cette erreur de parler, ça m'arrive même encore, de dire, les filles, vous allez faire ceci et cela, mais il n'y a qu'une qui a fait ça. Donc, nous, on généralise, on fait des étiquettes pour tous, alors que c'est plus l'enfant qu'il y a 10 ans, par exemple. Donc, attention aux clichés, aux raccourcis. L'enfant a besoin de grandir dans cette confiance, personnaliser la relation. Juste un dernier mot par rapport à ça, ça m'a marqué. J'ai lu l'histoire d'un pasteur qui avait lui aussi des enfants, et ça m'a marqué parce qu'il écrivait dans ses mémoires que chaque jour, après une journée extrêmement chargée, comme on a tous souvent, il prenait le temps d'aller dans la chambre de chaque enfant, de discuter individuellement. J'avoue que quand j'ai lu cette phrase, j'avais pas encore d'enfant, et je me suis dit, je veux être comme lui. Je n'ai pas réussi à 100%, mais ça reste un idéal hyper beau.
Ça reste un modèle inspirant. Catherine.
C'est intéressant, c'est nourrissant. Moi, tout ce que j'entends, c'est vous êtes ministre du culte tous les deux avec Ismaël. J'ai l'impression qu'en tant que parent, de temps en temps, quand il y a des crises, on perd confiance. On perd confiance parce qu'il peut y avoir du mensonge, des événements qui nous font perdre confiance. Est-ce que finalement, l'idée, c'est pas de chaque fois retrouver la confiance et se fier à nouveau à la personne qu'on a en face? Est-ce que il y a pas un peu de miséricorde aussi dans tout ça? L'idée est d'arriver à peut-être à pardonner quand il y a eu une rupture de confiance. Et puis, est-ce que ça peut pas s'appliquer en dehors de la famille? En ce moment, on parle beaucoup des problèmes d'environnement. On n'a plus confiance, par exemple, dans ce qui va se passer dans la nature. Mais si on refait chaque fois confiance, c'est ça peut-être qui est intéressant, non?
Monsieur le ministre, Ismaël Mounir.
Ça m'intéresse, moi, d'avoir cet avis.
Alors, ça évoque beaucoup de choses, et donc je veux essayer d'être le plus concis possible. Moi, la première chose, la question de la confiance, je pense que c'est fondamental, parce que, en fait, si une personne on lui témoigne pas de la confiance, etc., quelque part, on va la brider, on va lui donner une psychologie qui est extrêmement mauvaise. C'est-à-dire qu'on va assister les enfants, etc. Et moi, je pense que c'est très mauvais. L'objectif, c'est de rendre les gens autonomes, qu'ils soient indépendants et qu'ils puissent faire par eux-mêmes. Et il y a une parole dans le Coran. En fait, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle la sourate Luqman. Donc, Luqman, on dit que c'est un sage. Et en fait, cette sourate-là, elle est liée à la sagesse. Et on dit que c'est, en fait, la sourate qui a pour thème non pas l'éducation, mais l'éducateur. Et dans cette sourate-là, cet homme-là donne 10 conseils à son enfant, 10 recommandations. Et il y a des recommandations sur le fait de prier, il y a 7 recommandations sur l'éthique, la moralité, etc. Et il y a 2 recommandations en fonction de ce qui relève de la croyance. Et parmi les 2 recommandations de la croyance, il y en a une dans laquelle le père dit à l'enfant, « Oh mon fils, donc de manière très affectueuse, sache que si tu fais une faute, un péché, etc., qu'il soit aussi petit qu'un grain de moutarde et qu'il soit caché au fond des rochers ou quelque part sur terre, Dieu, il a la capacité de le faire revenir. » C'est-à-dire, en gros, moi, tu peux me cacher tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache que Dieu, lui, tu peux rien lui cacher. Et je pense que c'est ça, c'est lier les enfants à Dieu. Et
alors, Joseph Toledano.
Écoutez, j'aime beaucoup ce mot de confiance, parce qu'il est lié à quelque chose qui m'a paru important dans l'éducation de mes enfants et puis dans la formation des enseignants. J'ai été pendant quelques années directeur d'un institut de formation d'enseignants, parce que le mot confiance va avec la notion de contrat. J'ai confiance parce que j'ai un contrat avec quelqu'un.
C'est d'artiste.
Et ouais, avec les enfants, tout à fait. Je pense que les publicitaires se sont saisis de ce concept, parce que c'est un concept très puissant. C'est que je passe un contrat avec quelqu'un. À partir de là, s'il me trompe sur le contrat, effectivement, la confiance est érodée. Avec les enfants.
Oui, mais ce que disait Catherine, c'est qu'en fait, il faut le re-signer tous les jours.
Il faut recontractualiser régulièrement. Ouais. Il faut savoir dire, ben, on a fauté, puis voilà, on recommence. Et puis, là, je voudrais dire quelque chose que tout à l'heure, Ismaël a un petit peu souligné, qui me paraît très important. La confiance n'est pas la même quand on la reçoit de sa mère et quand on la reçoit de son père. C'est peut-être un peu genré ce que je vais dire.
Allez-y.
Mais je dirais, nous attendons, et ça fonctionne souvent comme ça, la mère, c'est la confiance dans la vie, c'est la confiance dans les émotions, c'est la confiance dans les sentiments. Le père, c'est la confiance dans les lois, dans la société, dans ceux à qui on peut faire confiance. Et c'est cette collégialité entre la confiance de la mère et la confiance du père qui fait que l'enfant peut avoir, si je puis dire, un certain équilibre.
Yacine, le grand quiz des religions, avec la première question.
Donc aujourd'hui, le grand quiz, vu que j'ai des ministres du culte, j'ai des spécialistes des textes, on va parler des textes, il faudra me trouver les origines de ces textes.
Bien.
Donc le premier, l'enfant a le droit, et en plus ça rejoint aussi tout ce qu'on disait, l'enfant a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. Dans quel texte
Ne vous battez pas, hein. Alors là, franchement.
La déclaration des droits de l'enfant.
Alors, Ismaël Mounir, déclaration des droits de l'enfant. Gabriel.
Oui, pareil, c'est une formulation.
Moi, je prends pas de risque, je dis pareil.
Pareil, je fais bon.
Donc, effectivement, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant. Tiré du Haut Commissariat des Droits de l'Homme et des Nations Unies, qui a été adopté le 20 novembre 1989.
Voilà, ce qui permet à Gabriel. Maintenant, c'est Gabriel, à Ismaël Mouyer, de marquer son premier point.
Donc, c'était pas facile, mais j'étais sûr que vous alliez.
Mais les doigts dans le nez. On y va. Deuxième question.
Quel est le premier passage de la Torah qu'un enfant commence à apprendre dès ses premières années?
Ah, là, on se tourne vers notre ami.
Non, je demande à Ismaël pour la Torah.
C'est la fatigue. Ah.
Ne vous battez pas.
Non, alors, Ismaël Mounir.
Bah, si on parle de la Torah, moi, je ne peux pas répondre, je ne sais pas.
Non, mais peut-être que vous pouvez savoir.
Non, je sais, j'avoue. Vous n'avez
pas.
Je sais pas.
Catherine.
Le premier
Gabriel.
Passage de la Torah que l'enfant apprend dans la famille.
Ça vient du Deutéronome.
C'est écoute Israël,
Shema
Israël, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Effectivement. Et puis il y a un deuxième aussi passage ou verset, c'est celui où il est dit, la Torah que Moïse nous a commandée est l'héritage de la congrégation de Jacob.
Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov.
Troisième
unique,
question.
Oui. Ahad, c'est exactement
le même mot
en arabe.
Ouais.
Dieu est un, c'est Ahad, c'est ça.
unique.
Wahid.
Ah. Ouais, c'est exactement.
Troisième question, Yacine.
Troisième question, encore un passage. Et dans ce passage, il est dit « Enfant, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. »
Éphésiens, chapitre 6,
Banco.
Versets 1 à 4.
Bravo, monsieur le pasteur.
Voilà.
J'ai révisé avant l'émission.
Gabriel, qui non, marque un point.
Très connu.
Allez, une dernière question.
Donc, la dernière question, on en a parlé. Et quel est le nom de l'homme sage qui est tiré de la. Qui est un
31.
Nom du chapitre du Coran, ou un nom d'un des chapitres du Coran, et dans lequel il s'adresse et il conseille son fils.
Sourate Luqman, sourate 31.
Donc l'homme sage, effectivement, exhorte son fils en lui disant, mon cher fils, il s'appelle Luqman le sage, Al-Hakim, mon cher fils, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est un crime abominable. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein.
Voilà. En arabe, dites-le nous en arabe.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير.
Et enfin dans ce chapitre il dit aussi ô mon cher fils, observe la prière, recommande le bien et déconseille le mal, supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre, telle est la résolution à prendre et dont tu ne devras jamais te départir.
Très bien. Et j'ai vu qu'Ismaël, qui avait marqué un deuxième point, l'a donné à Catherine, ce qui vous permet à tous d'être ex-écho.
Merci, Ismaël.
Je l'ai vu.
Elle l'a mérité amplement.
Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission de Speak Uni. Bon week-end à tous.
Bon week-end.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.